Alors, nous allons être rejoints par téléphone par Marie-Josée Corriveau du FRAPRU, le Front en réaménagement urbain. Bonjour Marie-Josée, je pense que j'ai écorché le vrai nom du FRAPRU à force de dire FRAPRU.
Oui, c'est pas grave, c'est le Front d'action populaire en réaménagement urbain.
Ah, c'est ça,
Bonsoir.
je le dis pas assez souvent.
C'est ça.
Alors le FRAPRU annonce qu'il est en caravane du 14 au 19 février 2011. C'est le prétexte pour se parler aujourd'hui. Une caravane sur la route pour le logement social. 50 000 logements, c'est urgent. Alors 50 000 logements sociaux, c'est une revendication dont on a déjà entendu parler, qui a parcouru l'histoire du FRAPRU. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'origine et le développement de cette revendication-là?
Ben en fait, elle a émergé dans les années 2000, quand à un moment donné, on s'est dit que parce qu'on demandait, on a eu d'autres revendications qui réclamaient soit un grand chantier pour le logement social ou ce genre de choses-là. Mais durant au début des années 2000, on a traversé une pénurie importante de logements locatifs, ce qui a mis des gens à la rue et ce qui a aussi provoqué une hausse importante des coûts de loyer. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on se retrouve en ce moment au Québec avec au-dessus de 260 000 ménages qui ont des besoins impérieux de logement. Que ce soit parce qu'ils habitent dans des logements inadéquats, trop petits, mal entretenus, mais je vous dirais la plupart du temps parce que les logements sont beaucoup trop chers et le fait de payer son logement fait en sorte que les gens doivent couper sur d'autres besoins essentiels comme la nourriture, les médicaments, les fournitures scolaires, ce genre de choses-là. Donc, on s'est dit, à la lumière de ce besoin-là, il faut qu'on rehausse notre revendication. C'est indispensable. En même temps qu'on sait pertinemment que si on demandait 260 000 logements sociaux demain matin, à peu près tous les gouvernements nous diraient, vous êtes tombés sur la tête, c'est impensable. Alors, on s'est dit, ben, faisons une revendication qui est significative et marquante et qui va donner le pas, qui va donner une indication de ce qu'il y a à faire et qui est en plus en regard des besoins, là, à la hauteur des besoins, et en même temps va nous permettre de dire, ben, au bout de 10, 15, 20 ans, on aura déjà répondu à une bonne partie des besoins, donc on aura franchi des grands pas. C'est un peu le signal qu'on envoie quand on dit qu'on veut 50 000 logements sociaux en 5 ans pour le Québec.
Puis quand on parle de logement social, on parle de plusieurs types de constructions ou de modèles différents, j'imagine. Il y a notamment les HLM qui a très peu en fait au Québec, mais il y en a aussi d'autres modèles. C'est quoi les différents modèles vous
demandez? C'est ça. Alors à l'heure actuelle, le HLM, c'est la formule qui est la plus répandue. Le problème, c'est qu'il ne s'en construit plus depuis 1994, depuis le moment où le gouvernement fédéral s'est retiré du financement de nouveaux logements sociaux sur une base récurrente. Le gouvernement provincial n'a pas pris la relève, contrairement à ce qu'il a fait pour le logement coopératif ou sans but lucratif. Alors, dans le cas des HLM, il y en a beaucoup. C'est, comme je vous dis, c'est la formule la plus répandue, mais il ne s'en construit plus et les besoins demeurent immenses. Alors, simplement sur les listes d'attente, et on sait qu'il faut être têtu pour se mettre sur une liste d'attente pour un HLM à l'heure actuelle, vu qu'il ne s'en construit plus. Il y a pas loin de 40 000 ménages à travers tout le Québec qui sont sur des listes d'attente à travers leur ville, leur office municipal, et ces gens-là doivent attendre parfois plusieurs années avant d'avoir accès à un HLM. Et en fait, la seule façon d'y accéder, c'est soit que la personne s'en aille, ce qui est rare parce qu'il y a encore bien des endroits où il y a pénurie de logements, ou encore parce que c'est un parc de logements abordable, ce qui n'est pas le cas sur le marché privé, ou encore que les gens décèdent malheureusement. Alors, les gens doivent s'obstiner vraiment longtemps pour avoir un HLM. Les autres formules, ben, c'est les coopératives d'habitation et les organismes sans but lucratif d'habitation. Ce sont des formules dont le développement est actuellement soutenu, mais en trop petite quantité pour répondre aux besoins. Alors, depuis quelques années, par exemple, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial contribuent à la réalisation de nouveaux logements coopératifs sans but lucratif à la hauteur de 3 000 unités par année pour tout le Québec, ce qui est nettement insuffisant là, quand on prend en considération le nombre de ménages qui ont des besoins impérieux de logement.
Puis, si je me trompe pas, ce qu'on a vu beaucoup dans les derniers temps, c'est l'inclusion d'un certain nombre de logements sociaux ou de logements qui sont dits abordables dans des parcs immobiliers massifs plutôt de type condominium.
Ouais. Ça, c'est un phénomène qui est plus montréalais, hein, parce que Montréal, contrairement à d'autres villes, s'est doté de ce qu'on appelle une stratégie d'inclusion. La ville de Montréal avait plusieurs grands sites à développer ou à redévelopper. Et à travers ça, suite à la demande et aux revendications et aux pressions des groupes communautaires membres du FRAPRU à Montréal, la ville s'est dotée d'une politique d'inclusion où elle dit que dans le cas des grands développements, il y aura au moins 15 % de nouveaux logements sociaux et 15 % de logements dits abordables. Bon, ils disent au moins, mais dans les faits, c'est au plus, d'une part. Et d'autre part, le problème, c'est que dans les logements abordables, qui sont des logements privés, ben l'abordabilité, c'est une notion très très élastique. Hein. Alors, ce qui est abordable pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Et la preuve, c'est que le logement abordable qui est construit par le privé dans les grands sites en inclusion, on parle de loyers de l'ordre de 900, 1000, 1200 $ par mois. Nous, ce qu'on réclame, c'est du logement social. Et ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'il y ait au moins 30 % de logements sociaux qui soient développés dans les grands sites. Mais malheureusement, on n'a pas encore réussi à imposer cette revendication-là.
Alors concrètement, la différence technique entre logement social et logement abordable, logement social, est-ce que c'est qu'il y a un pourcentage spécifique des revenus des personnes ou...
Non, moi je vous dirais que la première différence, c'est que le logement social, par définition, c'est du logement sans but lucratif. Ça appartient à la collectivité d'une manière ou d'une autre, qu'on parle des HLM, qu'on parle des coopératives d'habitation ou des organismes sans but lucratif, ça n'appartient pas à un individu ou à quelques individus, ça appartient d'une manière ou d'une autre plus à un collectif, OK, qui soit là, quand on parle des HLM, ça appartient à la municipalité ou au gouvernement du Québec, quand on parle des coopératives d'habitation, ça appartient à une coop d'habitation qui est sans but lucratif. Ce n'est pas le cas de toutes les coopératives, mais dans le cas des coop d'habitation, la plupart du temps, elles sont sans but lucratif ou d'un organisme sans but lucratif dont la mission est de loger du monde convenablement à un prix qui leur soit vraiment abordable, donc accessible financièrement pour les ménages à faible et à modeste revenu. Ça, c'est la première différence. L'autre différence, évidemment, et ça découle, c'est que dans le cas du logement social, l'objectif n'est pas de faire du profit. L'objectif est de loger convenablement des gens, comme je viens de vous dire, à des loyers qui leur soient accessibles. Et puis, alors que dans le cas du logement abordable privé, par définition, le privé veut faire de l'argent. C'est sa mission dans la vie. On peut même pas lui reprocher, c'est sa mission. Bon, alors c'est ça. Ce que ça donne au bout du compte comme différence, évidemment, c'est des loyers passablement éloignés. Alors, le logement abordable du privé, comme je vous disais, peut être de l'ordre, puis encore, il y a des projets où c'est encore plus cher que ça, mais on parle de 9 000, 1200 $ par mois. Alors que dans le cas des coopératives d'habitation, alors, il y a d'abord des ménages à l'intérieur des coop et des OSBL d'habitation qui perçoivent ce qu'on appelle des subventions de supplément au loyer, dont le loyer est fixé en fonction du revenu, un peu comme dans les HLM, à 25 % de leur revenu. Et l'autre partie, l'autre moitié des locataires ont un loyer qui est juste en bas du prix du marché, pour qu'on puisse reconnaître, entre autres, l'effort que ça représente que de vivre dans une coopérative, puisque les membres des coopératives doivent assumer collectivement les mêmes responsabilités par ailleurs qu'un propriétaire, la collecte des loyers, la tenue de livres, l'entretien des logements, etc.
Et donc, la semaine prochaine, c'est le début de la caravane du Frappru lundi, alors de Gatineau à Québec en passant par le Saguenay. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine-là?
Alors, notre objectif, c'est au fur et à mesure de nos déplacements de faire ressortir différents aspects des problèmes de logement à travers le Québec, parce qu'effectivement, il y a des différences. À Montréal, par exemple, ce qui est notable, c'est les problèmes de logement des nouveaux arrivants de différentes origines ethniques en particulier, les familles en particulier, qui ont beaucoup de difficultés à se loger parce que les logements familiaux sont toujours en pénurie, sont toujours extrêmement rares et ils sont extrêmement chers. Et ça, c'est sans compter les problèmes de discrimination que les gens des différentes communautés ethniques ont à subir par-dessus le marché. Alors, c'est cet aspect-là qu'on veut faire ressortir en particulier. À Gatineau, c'est la cherté des logements. Ils sont très influencés par le parc, plutôt le marché locatif de Ottawa qui est extrêmement cher. Plus cher qu'à Montréal même. Alors, leurs loyers sont très chers à Gatineau. Et donc, c'est ce qu'on veut faire ressortir, comment la cherté des logements fait en sorte qu'on jette littéralement des gens à la rue. Et on se retrouve effectivement avec des sans-logis à Gatineau, non pas parce qu'il manque de logements, mais parce que les loyers sont trop chers. C'est aussi un peu le phénomène qu'on retrouve à Sherbrooke et qu'on va également aborder. Quoique, dans le cas de Sherbrooke, c'est vraiment l'aspect de l'incapacité de payer des locataires à faible revenu. Parce qu'on peut pas dire que les loyers de Sherbrooke ils sont trop chers pour les gens, c'est sûr, mais ils sont moins chers que ce qu'on retrouve à Montréal ou à Gatineau, par exemple, ou à Québec. Mais ce qui est notable, c'est que pour les gens à faible revenu, quand t'as juste une aide sociale ou quand t'as juste le salaire minimum, même si tu travailles 40 heures par semaine, t'es pas capable de te loger parce que la pénurie a fait en sorte que les loyers ont beaucoup augmenté, bien au-delà de la capacité de payer des gens. Alors, c'est cet aspect-là qu'on va faire sortir à Sherbrooke. Ensuite, à Saguenay. Saguenay aura des belles réussites, des belles réalisations. Alors, on veut montrer comment le logement social peut changer la vie des gens qui y ont en fait accès. Et puis, on va terminer ça à Québec, évidemment, là où siège notre gouvernement pour l'interpeller, on espère dans le blanc des yeux, pour réclamer des investissements dans le prochain budget de M. Bachand. Au fur et à mesure de nos déplacements, il y a des gens qui vont s'ajouter à la caravane, évidemment, et à chaque étape, il y aura des activités, des actions qui vont interpeller le gouvernement, qui vont interpeller les ministres responsables, et il y aura également des activités pour faire connaître nos revendications, mais aussi aborder des sujets, je dirais, plus périphériques, mais qui sont des soucis importants des membres du FRAPRU. Quand on pense, par exemple, à la situation aux graves problèmes de logement que connaissent beaucoup d'Autochtones à travers le Québec, alors c'est un aspect qu'on va toucher quand on va être à la TUC, parce qu'on va passer par la TUC. La question aussi de des luttes qui se mènent à travers le monde des sans-logis ou des sans-terres, c'est quelque chose qu'on va aborder à Trois-Rivières dans le cadre d'une conférence également. À Montréal, ça va être plus l'histoire des squats. Alors, il y a eu des squats depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a eu assez régulièrement au fur et à mesure des crises parce que c'est pas la... On a connu une pénurie grave au début des années 2000, mais ce n'était pas la première et malheureusement, ce ne sera sans doute pas la dernière. Et à chaque fois qu'il y a eu ce genre de crise-là, il y a eu des squats. Alors, on aura quelqu'un, entre autres, de l'autre Montréal qui va nous entretenir de ça, de même que des gens qui vont nous parler d'expériences plus concrètes, dont le squat Overdale Préfontaine là, qui aura cette année. Et puis également, essayer de comprendre à travers ça quelles sont les stratégies de la ville là, qui sont un peu étranges parfois. Alors, il y a un professeur en urbanisme, M. Pierre-Yves Gay, qui va venir nous parler tenter de nous expliquer, en tout cas du moins selon lui, pourquoi la ville de Montréal fait plus facilement des ponts d'or pour les développeurs de condos que pour les développeurs de logements sociaux. Alors, c'est des questions qui vont être abordées à Montréal. À Québec, ben, la Ville de Québec a de grandes prétentions en voulant développer ce qu'ils appellent les écoquartiers, ce qui n'est pas du tout pareil aux écoquartiers de Montréal qu'on connaît bien, qui s'occupent de recyclage, d'aménagement paysager, etc. Les écoquartiers à Québec, c'est plus réfléchi dans le sens de redéveloppement de grands sites et où on veut, entre autres, imposer des nouvelles normes, ce qu'on appelle les normes LEED, là, les normes de construction environnementale. Les groupes sociaux tentent d'obtenir des engagements en faveur du logement social dans ces grands sites-là et mettons qu'ils n'ont pas encore réussi à obtenir les engagements désirés. Alors, ça va faire l'objet d'un débat. Et puis, c'est les sujets qui vont être abordés, par exemple, là, au fur et à mesure de nos déplacements.
Merci beaucoup, Marie-Josée, pour toutes ces informations. Si on veut savoir où passe la caravane proche de chez nous, j'imagine on peut aller sur votre site web.
C'est comme ça qu'on peut suivre toutes nos activités. Et je voudrais terminer en lançant une invitation particulière, si possible, pour notre grande manifestation de clôture qui a lieu le 19 février à Québec. Il y a du transport gratuit organisé à partir de Montréal qui va passer dans différents quartiers. Alors, si on veut réserver sa place, parce qu'il faut réserver sa place d'autobus, évidemment, alors il faut contacter son comité logement ou son association de locataires et on va retrouver les coordonnées de ces groupes-là sur notre site web également. Alors ça, c'est le 19 février et les gens sont invités à venir. L'adresse de notre site web, c'est www.frapru.qc.ca.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir.
Alors, nous étions avec Marie-Josée Corriveau du FRAPRU, donc qui nous annonçait tous les événements de la caravane sur la route pour le logement social avec la revendication 50 000 logements sociaux en 5 ans, donc qui va parcourir le Québec la semaine prochaine.